Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que j'ai le plaisir d'être là parmi vous. C'est ton dernier, j'étais occupé par ma mère, que je dois garder des fois un week-end sur deux, un week-end sur trois. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de joie d'être parmi vous ce matin, pour pouvoir partager avec vous des réflexions sur trois études. Comme vous le savez, en ce moment, le vendredi soir, avec Jean-Claude, nous étudions le thème « Les uns les autres » dans l'Église. C'est très intéressant. Savoir que Dieu, dans sa grâce, nous a mis ensemble pour que nous puissions vivre ensemble. Mais pas uniquement en comptant sur nos forces, parce que c'est impossible, mais avec le soutien du Saint-Esprit. Amen. Et donc, pendant trois fois que je vais apporter une petite réflexion, je parlerai de Romains chapitre 14 à Romains chapitre 15. Et dans ces réflexions, vous allez voir qu'il est question du vivre ensemble dans l'Église. Donc ce seraient trois sujets qui concernent la vie des uns et des autres dans l'Église. Le premier thème serait celui d'aujourd'hui, le respect des frères dans la foi. Le second, ce serait se soucier des frères dans l'Église. Et le troisième thème, le soutien des frères dans la foi. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble Romains chapitre 14, versets 1 à 12. Et d'avance, je vais vous demander de me pardonner si j'enlèverai ma veste, parce que je suis près du chauffage, et lorsque le verbe va commencer à sortir, des fois j'ai chaud. Donc Romains chapitre 14, versets 1 à 12. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dans les chapitres 14 et 15 de Romains, Paul aborde la question des rapports fraternels dans l'Église. Comment vivre l'unité dans l'amour? Et l'amour qui se manifeste concrètement par le respect des uns des autres, se soucier des uns des autres, et soutenir les uns les autres. Les problèmes que Paul a rencontrés à l'époque à l'église de Rome, je pense qu'aujourd'hui, quelque part, nous rencontrons les mêmes problèmes. Pas de la même manière, mais fondamentalement, nous retrouvons le même principe des problèmes. Certains croyants, mal affermis dans la foi, les faibles, pensaient devoir encore se soumettre aux exigences rituelles héritées du judaïsme. La consommation de certains aliments et l'observation de certains jours. Ces chrétiens avaient tendance à juger ceux qui pensaient différemment. D'autre part, ceux qui étaient plus affermis dans la foi, les forts, qui avaient compris qu'en Christ, il y avait maintenant une nouvelle liberté, qui n'avait plus lieu de respecter ses exigences, témoignaient peu d'égard à l'envers des faibles et les méprisaient. La grande difficulté de Paul était justement d'essayer de concilier, voire de réconcilier ses frères qui avaient des opinions contraires sur certains points. Il n'est pas du tout question de parler des grands sujets de la foi chrétienne. Il n'est pas question de parler de la doctrine chrétienne où tout le monde qui a choisi de suivre Jésus-Christ est d'accord. Et ça, quel que soit notre arrière-plan et nos convictions. Paul aborde ici des questions secondaires, mais qui font partie de la vie chrétienne. On ne peut pas évacuer, qu'on ne peut pas minimiser. Paul aborde des questions secondaires de la vie chrétienne. Paul souligne deux règles d'or pour des relations harmonieuses entre frères. Pas de jugement entre nous, pas de mépris pour les plus faibles. Je l'ai dit en préambule, ce que Paul a vécu à son époque, on ne le trouve pas aujourd'hui, quoique. Mais le principe reste toujours le même. Une chose qui est vraie dans l'église locale, quelles que soient les églises locales, à Vigneux, à Orly, à Marseille ou ailleurs, ce qui est vrai dans l'église, c'est qu'il y a deux catégories qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter dans une église qu'il y ait des forts, qu'il y ait des faibles. Pourquoi ? Parce que personne ne grandit de la même manière. Personne n'a le même cheminement avec Dieu. Personne ne vit les mêmes épreuves de la vie avec Dieu. Personne. Je pourrais dire, c'est cas par cas. Toutefois, Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Et Dieu aide chacun d'entre nous à grandir dans la foi, même si nous n'avons pas le même cheminement. Et autre chose qu'on ne peut pas éviter dans l'Église, c'est qu'il y ait des points de vue divergents, différents. On ne peut pas éviter. Vous savez, vous connaissez la pensée commune, où tout le monde pense la même chose. Pas dans l'Église. Et c'est normal. Nous sommes tous différents. Nous venons tous d'arrière-plans différents, de cultures différentes, de pays différents. Et c'est normal que nous ne pensions pas la même chose. C'est normal. On dit souvent que la diversité fait la richesse. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est normal que dans l'Église, chacun d'entre nous, sur des points secondaires, nous ayons un point de vue différent. Toutefois, nous aimons tous le même Seigneur qui nous a tous sauvés avec la même grâce. On ne peut pas empêcher un frère d'avoir une opinion ou d'avoir des scrupules sur un domaine de la vie, même si cela peut nous sembler incroyable. Ce qui importe, c'est de maintenir dans le respect et l'amour les opinions différentes qui existent dans l'Église. Notre devoir est d'arriver à harmoniser les opinions différentes afin de vivre dans la paix et l'unité, tout en tenant compte de nos différences. Paul nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Cela implique des efforts à faire pour vivre en paix et en harmonie dans l'Église. Le tout est une question d'attitude de cœur vers l'autre. Et le chrétien doit avoir cette attitude qui ressemble à celle du Seigneur envers nous. Quelle a été l'attitude de Dieu envers chacun d'entre nous? Quelle a été l'attitude de Dieu envers moi? C'est l'accueil. Dieu m'a accueilli. Dieu nous a accueillis, mes amis. Est-ce que je mérite le fait d'être accueilli par le Seigneur? Lorsque je me regarde dans la glace, lorsque je vois mon péché qui est constamment devant moi, est-ce que je mérite d'être accueilli par le Seigneur? La réponse est non. Et pourtant Dieu, dans sa grâce infinie, m'a accueilli. Alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Nous étions tous indignes, méritons tous le châtiment de Dieu. Je mérite le châtiment de Dieu. Mais le Christ a donné sa vie pour moi. Dieu m'a accueilli, mes amis. Est-ce que dans mon fort intérieur, je peux dire avec sincérité, oui Seigneur, merci parce que tu m'as accueilli. Seigneur, merci parce que je fais partie de ta communion. Je suis dans ta communion, dans ta présence. Tout l'enseignement de Paul dans Romains 14 et 15 est fondé sur l'accueil. L'accueil comme étant la charpente des rapports fraternels dans l'Église. Accueillir, mes amis, accueillir. Accueillir, c'est un grand mot, mais c'est aussi une grande preuve d'amour que nous devons manifester à l'égard des uns et des autres. Si je ne me sens pas accueilli dans l'Église, je ne pourrais pas m'épanouir dans l'Église. Par contre, si je me sens accueilli comme il se doit, tout naturellement, je vais grandir dans ma foi, dans ma relation les uns avec les autres, parce que je me sens accueilli comme Christ m'a accueilli pour la gloire de Dieu. Il dit au chapitre 15, verset 7, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Mais c'est quoi accueillir, mes amis? Accueillir, c'est plus que ce que fait Joseph fidèlement, avec beaucoup de passion le dimanche matin. C'est vrai, Joseph, il nous accueille dans l'église locale. Il ouvre la porte, il nous accueille. Mais accueillir, c'est plus que ça, mes amis. Accueillir, dans la pensée de Paul, dans l'épître aux Romains, accueillir, c'est considérer l'autre comme étant aussi aimé de Dieu comme moi. Lorsque quelqu'un ouvre la porte et qu'on fasse entrer cette personne, la personne doit se sentir aimée au même titre que Dieu m'a aimé. C'est ça accueillir, mes amis. Aussi, c'est comprendre et respecter ses opinions, même si elles sont différentes des miennes. Accueillir, c'est aussi ne pas chercher des sujets de discussion stériles qui ne feront pas avancer la foi, qui ne chercheront des discussions qui ne chercheront pas l'édification de celui qui entre. Pourquoi pouvons-nous être mal affermis dans la foi? Paul parle des faibles. Et ce n'est pas péjoratif dans l'esprit de Paul. Le faible, pourquoi est-il faible? Certainement parce qu'il lui manque de lumière spirituelle sur certains détails de la vie chrétienne. Peut-être aussi un manque de maturité spirituelle qui viendrait de manque de connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de son autorité dans sa vie. Lorsque le Christ ne domine pas pleinement dans la vie d'un chrétien, qui fait que le chrétien est souvent faible, c'est parce qu'il est faible. Et je dois constamment demander au Seigneur qu'il soit le maître de ma vie. Ce n'est pas facile, mes amis. Ce sont des prières qui ne sont pas faciles. Mais nous sommes appelés à le faire. À demander au Seigneur chaque jour, Seigneur, oui, sois le maître dans tel domaine. Sois le maître dans tel domaine. Pour qu'il puisse régner pleinement en moi. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et cette liberté spirituelle nous rend fort, parce que nous avons compris que le Seigneur est le maître de la vie, de ma vie. On pourrait aussi dire que le faible a besoin de coutumes. Le faible a besoin que sa foi soit basé non pas sur l'enseignement biblique, mais sur ses propres convictions. Le faible, il est timide. Il manque d'audace dans la foi. Il manque de courage. Alors que Christ nous appelle à la liberté. Christ nous appelle à pouvoir jouir de tous les privilèges, toutes les bénédictions qu'il nous a octroyées en lui-même. Dans la grande leçon que Paul développe, il y a deux règles d'or et en même temps deux attitudes à condamner pour des rapports fraternels harmonieux. D'abord, cessez de nous juger. Juger l'autre, c'est une tendance naturelle. Vous savez, normalement et généralement, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour juger l'autre. C'est rapide, ça vient tout seul, merci. Ça vient tout seul. C'est la tendance naturelle. L'autre ne fait pas comme moi, ça y est, hop, tout de suite, c'est parti. Paul nous dit de cesser de nous juger. Et c'est vrai. Pourquoi jugeons-nous l'autre? Pourquoi on le juge? Parce que on pense qu'il est différent de nous. Parce que nous croyons le fait qu'il fasse autrement que nous, ça peut nous causer des problèmes. Bien souvent, on juge l'autre parce qu'on ne l'a pas compris. Mais aussi parce qu'on a peur de lui quelque part. On juge l'autre parce que on ne prend pas le temps nécessaire pour apprendre à le connaître. Et connaître quelqu'un, ça prend du temps, mes amis. Ça demande un effort. On pourrait dire que on juge facilement l'autre pour ne pas aller plus loin avec lui dans la relation. Voilà. Tout de suite, voilà. J'ai les catégories. Allez, je les juge. Telle croit pouvoir, comme dit le verset. Telle croit pouvoir manger ceci, telle croit pouvoir faire ceci ou cela. Il agit en fonction de sa foi. Il agit en fonction de son degré de compréhension qu'il a. Qui peut juger un tel sur ce qu'il fait ou sur ses propres convictions? Paul nous dit, verset 23, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Tout ce qui n'est pas le produit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est vrai, Paul le dit. Tel croit pouvoir. Et cette personne, ce tel, c'est vous et moi, tel croit pouvoir. Il agit en fonction de ses convictions. Mais il y a le danger, mes amis, de se laisser séduire, tromper par ses propres convictions. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de mes convictions. Ou les fameux « le Seigneur m'a dit » ou « j'ai la conviction ». Ah oui, mon frère, j'ai la conviction. J'ai un frère, avec tout le respect que j'ai pour lui, que Dieu le bénisse. Mais un jour, il m'a dit, Pierre, j'ai la conviction que cette personne guérira. Peu de temps après, le Seigneur a repris la personne. Nous devons prendre de la réserve. Bien sûr, le principe fondamental, c'est de respecter l'autre, de respecter ses convictions. Mais nous devons prendre de la réserve. Parce qu'il ne faut pas que nos convictions gouvernent notre vie. Il faut que nos convictions et nos opinions soient éclairées par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, l'Écriture, qui doit éclairer nos convictions, qui doit éclairer notre jugement. L'Écriture, car elle ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. C'est vrai, c'est une question de foi. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'esprit de foi, mais avec la sagesse et le discernement de l'esprit. Prenons la réserve sur les fameux, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a dit, où j'ai la conviction. Deuxième règle d'or, cessez de mépriser l'autre. C'est quoi mépriser l'autre, mes amis? C'est quoi dans l'église de Jésus-Christ, mépriser le frère? C'est quoi mépriser l'autre? C'est simplement considérer qu'il est moins important que nous, qu'il a moins de valeur, que je suis plus important que lui, que Dieu me voit avec plus d'importance que lui. C'est ça, mépriser l'autre. Parce que je peux faire ceci ou cela en conscience et que l'autre n'a pas encore cette liberté de le faire, donc je le méprise. Je me crois supérieur à cause de ma connaissance, à cause de ma progression spirituelle. Ma liberté ne doit pas être une occasion ni un prétexte pour mépriser le plus faible. Par amour pour lui, je dois tenir compte de son avis contraire et l'accepter. Je dois accepter par amour que mon frère, pour l'instant, n'a peut-être pas les mêmes lumières que moi. Il ne voit pas la même chose que moi. Il peut penser différemment que moi. Par amour, je dois l'accepter. De même, ma manière de voir les choses ne doit pas être une occasion de jugement. Verset 1, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Le verbe accueillir, à l'impératif, est plutôt donné au fort. Sa force à lui, c'est son degré de compréhension de la foi, sa maturité spirituelle, qui doivent se traduire par une sagesse à ne pas chercher à discuter des opinions différentes. Parce qu'on peut blesser l'autre par ses paroles. Mon frère peut avoir une attitude différente, une opinion différente. On peut le blesser par des paroles, entre guillemets, de supériorité. Mais aussi, le fort doit manifester un discernement spirituel pour comprendre que l'autre peut et a le droit d'avoir une opinion différente de la sienne jusqu'au moment où le Seigneur va l'éclairer. Nous grandissons tous d'une manière différente. Nous n'avons pas le même cheminement. Mais nous devons avoir la patience que l'autre arrivera un jour à comprendre comme nous croyons. Tout en sachant que ce que je crois me l'a été révélé par Dieu dans sa parole. Dans notre cours d'ITA, nous voyons que, entre parenthèses, je vous invite à venir, nous voyons que connaître Jésus-Christ est le fruit d'un don de Dieu. Dieu nous a fait connaître le Christ. Le Christ, je ne peux le connaître personnellement que si Dieu me l'a révélé. Et c'est dans la mesure où Dieu m'a révélé son Fils en moi que je peux non seulement le connaître, mais grandir dans sa connaissance. Donc le fort doit attendre, doit avoir la patience d'attendre que le faible arrivera aussi à un degré de maturité. Le fort doit manifester cela. Comme par exemple, parmi nos jeunes, il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette illumination. Vous savez, c'est valable pour moi aussi, moi le premier. On a beau nous dire des choses, on ne comprend pas tout de suite. On se rebelle. Mais sommes-nous plus forts que Dieu ? Bien sûr que non. Et ce que j'ai compris récemment, c'est que un chrétien qui appartient au Seigneur, tôt ou tard, Dieu va l'éclairer. Tôt ou tard, parce qu'il appartient au Seigneur. Et Dieu, en son temps, va l'éclairer. Donc, je ne vois pas manifester de l'impatience envers cette personne, parce que Dieu va l'éclairer un jour. Parce que c'est le plan du Seigneur. Alors tous, nous cheminons tous dans la même direction. Dieu va l'éclairer. Et moi, ça m'a apaisé. J'ai pu dire à cette personne, tiens, fais ceci ou ne fais pas cela. Dieu va l'éclairer. Et un jour, il va se rendre compte qu'effectivement, ce qu'il faisait avant n'était pas bien. Parce que c'est Dieu qui l'a éclairé. Dieu a le pouvoir, hein, d'ailleurs il est dit, on le voit tout à l'heure, Dieu a le pouvoir de l'affermir. Dieu a le pouvoir de nous éclairer. Dieu a le pouvoir de nous corriger. Dieu a le pouvoir de nous éclairer. Parce que nous lui appartenons. Parce qu'il est notre Père Céleste. Et le peuple dit amen. Amen. Ces attitudes sont à combattre pour les raisons suivantes. Pourquoi devons-nous combattre le jugement, le mépris? Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Nous sommes frères, mes amis. Et c'est parce que nous sommes frères que nous devons combattre ces sentiments de jugement, ces sentiments de mépris. Nous sommes frères. Et ce qui est extraordinaire, au verset 10, vous savez, Romains chapitre 14 et 15 fait partie de ce qu'on appelle traditionnellement la partie doctrinale. Mais chose extraordinaire, Romains chapitre 12 est le début de la partie doctrinale. Et au Romains chapitre 12, il est dit, je vous exhorte donc frères. Une fois, on prend le mot frère. Et l'autre fois, c'est Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? C'est la deuxième fois que Paul rappelle la notion de frère. Pourquoi devons-nous ne pas nous juger? Parce que nous sommes frères. Frères dans la foi. Faisons partie de la même famille de Dieu. Sauvés par la même grâce. Par le même Dieu qui nous aime. Parce que nous sommes frères. Et aussi parce que nous sommes serviteurs du Seigneur. Seul Dieu a le droit et la légitimité de nous juger. Non seulement Dieu a le droit de me juger, mais il m'a jugé en Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas le droit de juger mon frère, parce que je n'ai pas la légitimité. Seul Dieu a le droit. Parce que c'est devant Dieu que nous devons rendre compte de nos attitudes, de notre comportement, de nos convictions, de nos opinions. Que l'on soit faible ou fort par rapport à l'autre frère. Car quelle que soit la chose que nous faisons ou que nous disions, nous devons le faire, le dire, pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur. Troisièmement, nous agissons selon les lumières reçues et selon la foi. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. En effet, quoi que nous fassions selon les convictions qui sont les nôtres, nous croyons le faire et agir ainsi pour le Seigneur. Personne ne peut juger mon comportement dès lors que je suis convaincu et que j'agis honnêtement dans le Seigneur. Si ce que je fais, ce que je pense, est juste par rapport à ce que dit l'Écriture, puisque c'est l'Écriture qui reste quand même le maître mot, si ce que je fais, ce que je dis, donc ma conviction, mes opinions personnelles sont éclairées par l'Écriture selon ce que je comprends, selon les lumières que j'ai reçues, qui a le droit de me juger? Qui a le droit de me juger, mes amis? Personne, seul Dieu. Par contre, je l'ai dit, je le répète, seul Dieu peut nous éclairer. Mais il se tiendra debout, verset 3, hein, 4, pardon, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dieu ne nous laissera pas tomber, lui qui nous a accueillis, qui nous a éclairés sur les grands fondements de la foi biblique. C'est vrai. Dieu nous a éclairés sur les grands points de la doctrine chrétienne. Mais sur les petits points, il va aussi nous éclairer, car il a le pouvoir de nous affermir. Donc patientons, patientons, Dieu va nous éclairer. En son temps. Ce n'est pas en jugeant ou en méprisant le comportement ou les opinions du frère que je fais avancer les choses. Au contraire, c'est l'inverse qui se produit dans l'Église, lorsque je me mets à juger ou à mépriser. Le jugement, le mépris gâchent nos relations fraternelles. En revanche, si j'adopte la bonne attitude qu'il faut, si j'accueille le frère et que je respecte ses opinions, même si elles sont différentes des miennes, mon amour pour lui peut l'amener à réfléchir et à changer d'opinion. Mon amour pour lui fait de l'avoir accueilli correctement. Pour conclure, mes amis, je dirais, le but du respect entre frères, c'est que nous vivions en bonne harmonie entre nous, dans le respect des opinions, et surtout dans le lien de la paix qui forme l'unité. Nous pourrions servir le Seigneur ainsi dans un bon esprit. Alors que Dieu nous aide à être forts, à soutenir les plus faibles, mais surtout à nous accueillir pour la gloire du Seigneur. Amen.